France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Fernand de Rossen, audio-naturaliste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
3 mars, réveil spontané comme tous les matins à 5h30 aux premières lueurs du jour. Cela fait plus de 30 ans que je n'ai plus de montre. Je me réveille instinctivement aux événements proposés par la nature. Équipé de ma parabole, je finis enfin après un lever laborieux par me diriger vers une belle zone d'acacia en fruits repérés hier, en espérant observer de nouvelles espèces d'oiseaux à enregistrer durant ce voyage. Cela commence difficilement par un pouillot de bonelli timide, puis quelques cris de fauvettes passerelles. Pourtant, très vite, un son intéressant me parvient de l'acacia en forme de parasol situé à une centaine de mètres, un rythme tambouriné que j'ai souvent entendu dans mes voyages africains et asiatiques. Je pense quelques secondes à une tourterelle car le son est faible, mais en me rapprochant et en pointant mes jumelles dans le houppier de l'arbre, j'aperçois un petit oiseau râblé à la queue courte et au bec massif. Il est d'un joli coloris, la tête et une grande cravate sur la poitrine sont d'un beau rouge écarlate. Sur fond de plumage crème grisé et jaunâtre, ce sont, car ils sont en fait 3, des barbicans de vieillots en train de se nourrir de baies dans une liane qui parcourt le feuillage d'un acacia. Parfois, ils arrêtent leur collecte nourricière pour se rapprocher et entamer cet étonnant chant communautaire. Il était mis en plusieurs parties. Les premiers cris, un peu grésillants, poussés par le mâle le plus coloré, engagent les membres du groupe à se lancer dans cette mélopée martelée. C'est très stimulant car les sons s'accompagnent d'un étrange balancement sur les pattes de haut en bas, ainsi que des mouvements chancelants de la tête. C'est donc aussi un véritable spectacle visuel. À côté, un tsip flûté et aigu attire mon attention. C'est un suimanga à longue queue resplendissant, du ventre jaune citron jusqu'à la poitrine vert métallique, une longue queue fine à son extrémité. L'Afrique tropicale n'est plus loin. Bonjour Fernand de Rossen.
Bonjour Mathieu.
Ce texte est extrait de votre carnet de voyage audio-naturaliste et on peut le lire dans un ouvrage qui s'appelle Symphonie sauvage, publié aux éditions Rustica. Elle se déroule où cette scène alors vraiment ?
Alors là c'est en Mauritanie, c'est ouais. Dans le Tagant, donc le sud de la Mauritanie qui est presque à la limite avec le Sénégal et où j'avais passé en fait avec d'autres amis naturalistes une dizaine de jours et où on recherchait effectivement toutes ces espèces un peu tropical, mais ouais. Encore désertique. Donc, c'était un peu entre les deux. Quoi.
Ouais. Voilà. Donc, lever 5h30 le matin.
Oh, bah oui.
C'est le minimum qu'on puisse faire pour enregistrer les oiseaux.
Minimum, oui, oui. Ouais. Exactement. Ouais.
Et ça, c'est la description vraiment de votre travail quotidien, d'audio-naturaliste, alors,
oui,
c'est ça ?
Tout à fait, oui, oui. Alors, il m'a fallu longtemps, quand même, pour passer à l'écrit, parce que je suis un homme de microphone. C'est-à-dire, j'enregistre, et c'est mon moyen d'expression, après, de diffuser sous forme de CD, de podcast, de conférences, voilà. Et il m'a fallu 5 à 6 ans pour regrouper toutes ces anecdotes de 40 ans en fait, de carrière, pour trouver la diversité, la variété, et puis faire rêver le lecteur, auditeur, aussi avec les photos, puisqu'il y a des photos qui sont jointes.
Et les sons.
Et les sons,
parce
bien
qu'on
sûr.
Peut écouter voilà. Les sons de votre oui. Travail avec et les QR codes qui sont à disposition pour les lecteurs.
Voilà, je pense qu'il faut écouter en lisant. Quoi.
Ouais. C'est vous qui avez inventé ce terme d'audio-naturaliste
hein. Oui, oui, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est assez simple. On était toujours appelés chasseurs de sons. Bon, la finalité du chasseur, on la connaît, hein, c'est la mort. Là, ça ne me convenait pas du tout. Alors, je ne pouvais pas reprendre le terme de bioacousticien, puisque ce sont les scientifiques des sons de la nature qui travaillent dans des laboratoires avec rigueur et puis connaissance
et méthode,
ouais. Voilà. Et alors que moi, je travaille sur l'art des sons de la nature, et donc naturellement, ça m'est venu audio et naturaliste, parce qu'on allie les deux, quoi. Car avant tout, je suis un naturaliste. C'est-à-dire qu'un naturaliste, ça regroupe les dessinateurs, les peintres,
c'est
les
ça.
Photographes et tout ça.
Et enfin, vous êtes donc artiste aussi.
Voilà, je me définis aussi artiste parce que il y a dans le choix des enregistrements, il y a dans le choix des lieux aussi où aller enregistrer, dans le matériel utilisé, dans le lever du jour, enfin des choses comme ça. Mmh. Il y a beaucoup de circonstances qui font que c'est une œuvre en fait. Ce que l'on apporte, ce que l'on offre à écouter devient une œuvre.
Ouais. Et quelle œuvre, effectivement, en ce qui vous concerne, Fernande de Roussen, 4 décennies dont nous allons parler ensemble, l'occasion de remonter le fil de votre histoire pour comprendre comment vous avez été amené à devenir justement l'un des plus grands audio-naturalistes de la planète. On n'hésite pas sur les superlatifs. Bon. Si l'on en revient à vos racines, dans quel environnement justement vous avez grandi ?
Ça a été difficile. Je vous avoue que ma jeunesse a été très très difficile. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans le bec. Ça, c'est une évidence. J'étais à la DAS. Donc j'ai été placé à la DAS et j'ai eu mes premières années qui ont été en pensionnat, manque de liberté totale, mais vraiment totale, alors que j'avais toujours le regard vers le ciel, toujours l'oreille à l'écoute. Il me manquait quelque chose. Et c'est à l'âge de 13-14 ans que j'ai pu m'émanciper. Enfin, quand l'ADAS m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je leur ai dit « je veux être dans la nature, je vais étudier les oiseaux ». Ils m'ont dit « tu veux être dans la nature, tu seras jardinier ». Donc j'ai été jardinier paysagiste pendant 20 ans, j'ai fait 3 ans d'études.
Pendant 20 ans ?
Oui, quand même, ouais. Oui, jusqu'à les années 60, 80, oui, 92, oui, 92 exactement.
Ouais.
Et, mais je faisais les deux activités, c'est-à-dire que j'étais aussi passionné d'oiseaux et donc membre de l'association parisienne ornithologique, qui est devenue ensuite le CORIF, et qui est aujourd'hui le LPO Île-de-France.
Voilà. Donc il y avait quand même cet enfermement, qu'on comprend bien, là, pour vous, et en même temps, ce regard toujours tourné vers l'extérieur, c'était votre échappatoire, finalement,
totalement.
Et des rêves qui commençaient à se construire en regardant par la fenêtre.
Totalement. Je dois, en fait, et ma carrière, et ma vie, en grande partie, à la nature. À la nature sauvage. C'est-à-dire qu'en étant paysagiste, j'étais dans une certaine nature, mais une nature déjà domestiquée. Je préconisais toujours de jamais mettre de traitement, je faisais mettre des nichoirs, j'avais déjà quand même...
Cette conscience. Très tôt alors.
Oui. Ouais. Et ce désir en fait que le client comprenne que son jardin, c'était aussi un lieu de vie pour d'autres êtres vivants. Donc c'est pour ça qu'il y avait souvent beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes dans ces jardins.
Il paraît que vous passiez beaucoup d'heures aussi à noter les oiseaux au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Oui. Ouais. Comment vous avez connu ça ? Oui, effectivement, je passais des heures à faire de la systématique. J'allais au Jardin des Plantes ou au Zoo de Vincennes et je notais tous les noms d'oiseaux sur des carnets, les noms des animaux, la systématique, l'ordre, la famille. Ça, j'ai toujours adoré ça.
Vous aimiez ça, en fait ? Parce qu'on peut considérer ce travail comme un peu rébarbatif.
Il y a peut-être le côté collection un peu derrière ça, oui. Peut-être collectionneur. C'est vrai que j'aimais mettre des mots, des chiffres. Et puis le latin, par exemple, m'a toujours beaucoup plu dans les noms latins des animaux, qui est un langage universel, du coup, que toutes les langues peuvent comprendre, en fait. Tous les scientifiques de la planète comprennent le nom latin de chaque espèce. Ouais. Ça m'a toujours attiré. C'est toujours fantastique.
Et est-ce qu'en faisant justement ces listes, vous aviez en même temps, vous nourrissiez des rêves de voyage pour aller peut-être aussi sur place, voir de quoi il s'agissait ?
Oui, c'est évident. Combien de fois j'ai rêvé de Bornéo, combien de fois de l'Indonésie, de l'Afrique, même dans mes premiers croquis, mes premières notes et tout, je dessinais déjà des choses... un peu comme le douanier Rousseau, c'est-à-dire sans jamais y être allé, je dessinais déjà des feuilles d'arbres, des plumes, des choses comme ça. Mmh. Mais très vite, après avoir essayé le dessin, après avoir essayé la photographie, après même l'écriture, j'ai eu la révélation le jour où j'ai pointé mon microphone sur un oiseau, qui était une rousserolle turdoïde d'ailleurs en Lorraine, mais grâce aussi à un ancien ami, quoi, en fait, François Charron, je voudrais le citer quand même, qui m'a en fait emmené vers ma voie de la prise de son nature. Quoi.
Alors on va l'écouter, cette rousserolle turdoïde en dombe, c'est extrait justement de votre livre, ça fait partie de ces oiseaux qu'on peut découvrir avec vous, donc on va l'entendre sous notre voix. Donc ça, c'est en quelle année, cette révélation sonore dont vous parlez, Fernand de Roussel ?
85. Auparavant, j'ai toujours eu l'oreille sensible, mais je dessinais beaucoup. J'étais avec un autre ami, Jean Chevalier, qui se reconnaîtra, qui est devenu l'un des plus grands peintres et dessinateurs animaliers de France. Hein, ça, c'est une évidence. Mais comment lutter devant la beauté de ce qu'il faisait par rapport à ce que je faisais. C'était pas ma voix. Et c'est plutôt ce cher François Charon qui m'a accompagné, emmené vers le son et qui m'a fait découvrir cette voix.
Alors ce chant d'oiseau qu'on entend sous notre voix, pourquoi est-ce que ça crée autant d'émotions chez vous, Fernand de Roussel ? Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là ?
C'est vivant, c'est la vie, c'est... Je me dis toujours comme ça, on est sur une planète qui chante. C'est-à-dire que c'est la seule planète de l'univers, enfin connue pour le moment par rapport à nos recherches astronomiques,
c'est vrai.
Tout ça. Il y a des milliers d'espèces, mais des milliers, presque des centaines de milliers d'espèces qui émettent des sons et on les ignore. Mais quand on commence à ouvrir ses oreilles à ces autres êtres vivants, on se trouve petit en tant qu'humain, quoi. On se dit, on a notre place là-dedans, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de proposer, en fait, aux autres ? Rien du tout. On ne fait que proposer destruction et exploitation. Et ça c'est le côté sensible, en fait.
Il paraît que votre myopie a joué un rôle, justement, dans le fait de développer
exactement,
ce sens de l'audition.
Ça, j'en suis persuadé, oui. La myopie, puis une perte d'odorat pendant un certain temps, ont développé, effectivement, je pense, le sens de l'écoute. Après, c'est un entraînement. Hein. Il faut vraiment, vraiment écouter. Et on apprend beaucoup en ouais. simplement écoutant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On peut être aussi un scientifique, on peut avoir besoin de classer les chants d'oiseaux, etc. Et alors à ce moment-là, on met une étiquette dessus, on enregistre un oiseau pendant 2 minutes, on dit grive musicienne, on met une étiquette et on est content. Et moi, je travaille un peu différemment, c'est-à-dire que quand je rencontre une grive musicienne, pour moi, c'est un individu, c'est un être qui est unique au monde, qui a son chant, car chaque grive musicienne a un chant différent. Et si cette grive chante bien, je vais l'enregistrer pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et ensuite, je vais peut-être même lui repasser son chant, ce qui va l'exciter davantage. Elle va croire que c'est un autre mâle qui vient sur son territoire. Et elle va encore me sortir des airs qu'elle sort pour les occasions rares. Et c'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre vivante pour moi. Voilà.
L'ornithologue Jean-Claude Rocher, c'était en 1998 au micro des Nuits de France Culture. Fernand de Roussel, vous qui êtes notre invité au carré, audio naturaliste, avec cet ouvrage Symphonie sauvage, qui sont vos carnets de voyages sonores. Et cet homme, Jean-Claude Rocher, qui a été une boussole aussi dans votre parcours quand même. Hein ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Je me rappelle encore tous ces disques ces disques 45 tours. On ouais. a passé à une autre époque, que je collectionnais, que j'écoutais en boucle, en fait.
Mais c'était des disques de quoi, alors ?
De chants d'oiseaux, ouais. simplement de chants d'oiseaux, famille par famille, qui a permis, en fait, un apprentissage approfondi des chants d'oiseaux, et à beaucoup de naturalistes, hein, d'ailleurs. Ouais. Et puis après, il avait créé le Wallbird, qui était la première cassette audio qu'on pouvait transporter, et puis réécouter le chant pour comparer à celui qu'on entendait sur le terrain. Oui, ça a été le précurseur des sons nature.
Vous avez beaucoup échangé ouais. ensemble. Il est décédé là cet été, justement.
Oui,
C'est quelqu'un que vous avez souvent croisé sur votre route ou pas ?
Pas très souvent, parce que bon...
Vous êtes des vieux loups solitaires en plus, quand
voilà,
même.
Voilà, hein. Exactement, c'est ça. Puis on avait une approche un peu différente. C'est-à-dire que, par exemple, moi, la pratique de la repasse, je ne la fais pas du tout. Ça n'existe
Qu'est-ce que
pas.
C'est exactement ?
C'est repasser le chant de l'oiseau pour l'attirer et pour l'exciter. Quoi,
c'est ça. Hein. Pourquoi vous ne le faites pas ? Pour des questions éthiques, tout simplement ?
Ah, totalement. Ouais. Totalement éthique. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que je sais que mon travail est utilisé, par contre, par des photographes, par d'autres naturalistes, ou même par d'autres gens, des promeneurs, pour l'affaire la rapace.
Pourquoi vous opposez à ce principe ?
Parce que c'est le dérangement. Vous voyez, là, j'arrive du Pérou, il y avait un groupe d'Anglais qui était avec moi dans le même lodge. Un matin, ils ont passé le champ d'une grave gralaire, c'est un tout petit oiseau qui est en sous-bois. Ils ont photographié tout ça, la gralaire était super. Mais après, ils sont partis, donc ils avaient leur coche, ils avaient leur photo. Mais deux heures, trois heures après, la gralaire cherchait encore. Elle tournait, elle cherchait désespérément qui était venu sur son territoire. Donc il y a un dérangement. Hein. Et d'ailleurs, ça se voit sur les photos où il y a de la repasse qui est passée. Vous voyez l'oiseau souvent ébouriffé ou alors qui est interrogé et tout. Enfin, donc voilà. Ouais. Et si je me souviens bien, c'est aussi du braconnage. Hein. Faire de la repasse, c'est considéré comme du braconnage.
Parce qu'évidemment, on attire une espèce vers soi et c'est beaucoup plus facile de la prélever, entre guillemets, comme disent les chasseurs. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques qui vous font bondir, d'ailleurs, dans le milieu naturaliste, Fernand de Roussen?
Je dirais que...
Sur la façon dont on peut justement manipuler le vivant pour faire des photos ou des films.
Voilà, c'est surtout par rapport des photos ou films. Les animaux imprégnés, notamment, ça se comprend que prendre du temps pour faire des films comme le prochain film de Vincent Munier là, qui va sortir.
Dans la forêt.
Voilà, ouais. Où là, il n'y a aucun animal imprégné, où tout est fait d'une façon incroyable. Je dirais que ça me gêne. Mais comment faire autrement pour avoir des comportements? Enfin, j'ai le souvenir encore au Kenya là, d'être arrivé pour enregistrer les paysages et puis les sons de nature là-bas. Le guide m'emmène directement sur un lion. Bon, j'ai dit, d'accord, oui, il fait du bruit. Bon, mais d'un seul coup, je vois mes 15-20 voitures arriver tout autour et ça photographie de partout. Je dis, attendez, moi, je ne suis pas là du tout pour ça. On va aller dans un petit coin faire les hippopotames à l'abri. On va prendre notre temps et tout. Mais vous auriez vu le visage du guide. Et c'était extraordinaire parce qu'il dit « Enfin, quelqu'un qui ne va pas me laisser des heures devant une panthère ou devant un lion. » Et donc, moi, je lui ai dit « Je préférerais avoir l'aigle pêcheur parce qu'il a un cri extraordinaire. Et en plus, si en même temps, il y a les souffles d'hippopotame, vous voyez le concert, la symphonie qui va naître. » Et il a bien compris. Et puis après, ça a été formidable pendant plusieurs jours.
Vous êtes solitaire, d'ailleurs. C'est vraiment quasiment une caractéristique intrinsèque de votre pratique. La solitude.
Voilà, l'audionaturiste est un solitaire, par contre il n'aime pas la solitude, c'est-à-dire que la présence des autres êtres vivants est importante. Je ne vais pas chercher spécialement le silence, si ce n'est le silence des hommes. Mm-hmm. Je ne cherche que le silence des hommes. Tout le reste, moi, je vais toujours chercher le contact avec les autres êtres vivants de la planète. C'est important. J'aime bien aussi me retrouver de temps en temps parmi les hommes, n'ayez crainte. Hein.
Et vous emmenez de temps en temps des bipèdes humains avec vous ou pas ?
Oui. Là, j'arrive du Pérou avec un ami, Olivier Pichard, là, avec qui on a passé 3 semaines merveilleuses à collecter. Et je fais aussi partie d'une association, l'association Sonatura, des audionaturalistes francophones. On se regroupe une à deux fois par an pour écouter toutes nos découvertes, toutes nos merveilles sonores.
Avant de commencer l'émission, Fernand de Roussen, vous m'avez dit évidemment, je voyage beaucoup, j'ai pas eu une empreinte carbone terrible, mais on me le pardonne. Pourquoi ?
C'est simple. Il n'y a pas très longtemps de ça, dans une conférence, toujours pour plaisanter, mais avec un peu de remords, je dis oui, mon bilan de carbone n'est pas terrible avec les avions. Et quelqu'un s'est levé dans la salle et me dit, mais non, monsieur de Roussen, imaginez, on est 70 dans la salle, si on devait tous aller sur les endroits où vous allez enregistrer, le bilan carbone serait terrible, et vous nous faites rêver. Vous nous faites rêver à écouter tous ces beaux sons, ces compositions, ces réalisations. Ça m'a vraiment ému ce jour-là. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais un rôle, le témoin, un rôle de témoin. Et l'audionaturaliste, comme le photographe ou comme le dessinateur naturaliste, a un témoin, celui de mettre en valeur les beautés de la nature et ces êtres vivants qui vivent avec nous, autour de nous.
Qui arrivent à résister aux assauts des activités humaines, tant bien que mal.
C'est difficile, c'est difficile.
Vous l'avez entendu, le changement sur 4 décennies d'ailleurs de pratique ou pas ?
Oui, totalement. Notamment, je fréquente beaucoup le bois de Vincennes, donc à Paris.
C'est bien pour l'empreinte carbone. Ouais.
Voilà, on est passé d'une époque où c'était les merles, c'était les grives, c'était beaucoup beaucoup de passereaux. À l'époque d'aujourd'hui aussi, des bernaches du Canada, c'est des perruches à collier qui braillent, ça braille, là pour le coup c'est vraiment pas un beau son. Et puis beaucoup de corneilles, beaucoup de pies, l'environnement sonore a totalement changé, totalement. Ouais.
Vous préférez le chama à croupion blanc par exemple, Fernand de Roussen? Ça c'est un oiseau que vous avez enregistré au Sri Lanka?
Non, en Inde. Oui.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet oiseau?
Justement, comme disait Jean Rocher, c'est un des oiseaux phares dans la mélodie des oiseaux. Il l'avait d'ailleurs sur un de ses CD.
En l'occurrence, c'est un enregistrement qu'il a réalisé lui-même.
Ah, bon,
c'est pour ça que je parlais du Sri Lanka.
Oui. Ah oui.
Parce que c'est lui qui l'a fait là-bas, au Sri Lanka. Mais c'est un enregistrement justement qui a beaucoup compté pour vous, apparemment.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces virtuoses dont on a, chaque audio-naturaliste a une petite liste et se dit, tiens, celui-là,
ah oui, c'est
vrai qu'un jour je l'enregistre.
C'est votre diva absolue.
Voilà, dans chaque pays, il y a toujours un virtuose comme ça qui est un fil conducteur.
Le chamia à croupion blanc.
Le chama.
Chama à croupion blanc.
Exactement, oui. Ouais.
Vous parlez souvent de monde sauvage plutôt que de nature, d'ailleurs.
Oui, enfin, tout à fait.
La nuance, elle est importante pour vous?
Oui, très importante. Du fait d'avoir été paysagiste, de la nature, j'en ai eu domestiqué pendant des années et des années. Le sauvage, c'est autre chose. Le sauvage, on ne le contrôle pas. Le sauvage, il est libre. C'est pas vous qui décidez de ce que vous allez enregistrer vraiment. C'est l'oiseau qui est en face ou l'animal qui est en face. Non, c'est très très important de faire la différence. Parce que là, l'homme est en train de domestiquer la planète.
Ouais.
Totalement. Et c'est indispensable, il nous faut conserver du sauvage.
Et comment vous choisissez les lieux ou les moments d'ailleurs pour poser vos micros? Alors, comment ça se passe dans votre travail?
C'est beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que...
Il y a de l'intuition?
Il y a beaucoup d'intuition. Je dis toujours, c'est 40% de matériel, de qualité de matériel, 40% de connaissances naturalistes et 20% de chance. La chance est vraiment importante. Mais j'ai remarqué que beaucoup de naturalistes attirent les animaux sans...
Ah bon ?
Oui, ben ils ont c'est peut-être un sens inné, en fait, qui les amène dans des situations où les animaux se présentent, enfin, apparaissent. Mais ça, j'en suis persuadé qu'il y a un peu de ça.
Et vous avez vécu des moments où vous avez eu le sentiment d'échanger avec eux, qui est presque une conversation avec certains d'entre eux?
Oui. J'ai encore le souvenir d'un... Bon, je ne l'ai pas mis là dans le livre, mais d'un ours noir au Canada, où je me suis retrouvé en face de lui. Il s'est dressé, bon, surpris et tout, et je lui ai parlé, je lui ai dit « Attends, t'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'embêter, je suis là pour les petits oiseaux. » Je lui ai parlé.
Et ça marche?
Et ça a marché.
Ah, vous avez eu la chance quand même.
Il m'a regardé.
Ça, c'est les 20% de chance, non?
Je crois que l'ours noir n'est pas très... Ça aurait été un grizzly, je pense que là, je ne serais peut-être plus de ce monde.
Et alors, il s'est levé?
Il s'est levé, bon, il a compris que je lui causais, enfin que j'étais pas du tout négatif ou quoi que ce soit. Il s'est reposé, il a commencé à manger un ou deux brins d'herbe, et puis il s'est retourné, puis il est parti tranquillement. Ouais. Et moi, j'ai continué à enregistrer ma petite paruline dans un arbre.
Ouais, il s'est dit, celui-là, il est sympa, il a une bonne tête.
Voilà, celui-là...
Il n'y a pas de danger.
Disons ça.
Il n'y a pas de danger. Alors, les animaux, d'accord, mais les environnements aussi, les montagnes, les volcans, par exemple. On va écouter, par exemple, la captation de l'Etna en activité.
Quel souvenir, mais quel
c'est
souvenir.
Vrai, c'était quand, dans quel contexte?
Alors c'était en an 2000 à peu près, donc j'étais avec une équipe de volcanologues et l'objectif c'était de réaliser un futur CD sur les sons de volcans. Et donc je me suis retrouvé au sommet de l'Etna où c'est incroyable, entre les sons et le sommet qui bouge, parce que tout tremble.
Donc vous étiez sur le cratère hein?
Voilà, au sommet, oui. Bon, on avait quand même des distances de sécurité par rapport aux bombes volcaniques et au souffle et au tout ce qui se passait. Mais je peux vous dire, j'étais pas fier parce que ça tremblait. Je me disais, mais bon, tout va s'effondrer, je vais partir dans le cratère avec. Mais non, ça s'est bien passé. Et puis, bon, ça faisait rire un peu les volcanologues derrière qui étaient habitué.
Mais là, vous aviez le sentiment de prendre un risque pour enregistrer le son du volcan ?
Non, parce que j'étais quand même accompagné. J'essaye de jamais mettre ma vie en danger par rapport à des sons nature. Ça m'arrivait 2-3 fois sans que je le enfin inconsciemment, notamment le coup des éléphants à chercher le chama à croupion blanc en Inde, où je suis rentré sur des chemins, mais hypnotisé par l'oiseau, c'est-à-dire que je le suivais avec ma parabole, mais sans prendre conscience que j'étais en train de m'éloigner de la route et tout. Et puis il m'a fait tourner en rond, et puis à un moment je me dis, je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Donc j'attends, j'ai dit, il y a peut-être une voiture qui va passer sur la route et je retrouverai la direction. Donc c'est ce qui s'est passé. Puis après, en rentrant au lodge, j'explique mon aventure, mais je vois le propriétaire pâlir et me dire, mais vous êtes fou! Vous êtes rentré sur le territoire des éléphants et tous les sentiers que vous avez pris, c'est les sentiers des éléphants. Mmh. Vous auriez pu vous faire écraser sans aucun problème.
Oui, mais vous auriez entamé la conversation comme avec l'ours. Et ça se serait très très bien passé, Fernando Roussen.
Peut-être.
Pas si sûr.
Non.
On va écouter le chant des baleines, parce que vous allez aussi sous l'eau. Hein,
oui, le matériel maintenant.
Vous allez dans tous les milieux, Fernando Roussen. On va écouter un petit peu cette baleine. Alors là, en l'occurrence, comment se passe un tel enregistrement ?
Alors là, nous sommes en Guadeloupe, hein, et puis à la bonne saison, au mois d'avril, là, début avril, quand la migration des baleines à bosse a lieu. Et c'est l'association OMAG qui m'avait invité.
Oui.
Et donc en bateau, on est arrivé sur les lieux que eux connaissaient parfaitement pour les champs des baleines. Et donc c'était terrible, il y avait une houle, enfin vraiment c'était... il y a la moitié des gens qui étaient de l'équipe qui étaient malades à bord. Et alors, quel miracle. C'est-à-dire que vous êtes dans des conditions presque de tempête, vous laissez couler l'hydrophone et soudain tout change. Soudain, c'est le chant des sirènes, ce chant merveilleux qui apparaît, et là vous êtes dans un autre monde, vous n'avez plus du tout mal au ventre ou quoi que ce soit. Là, vous respirez, quoi. Vous vivez le moment intensément, et là j'essaye de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton record.
Oui. Parce qu'il y a toujours cette idée quand même de rapporter ensuite...
Exactement, un témoignage.
C'est quand même votre boulot aussi, de ramener le fruit de ces écoutes.
France Inter. La Terre au carré.
Le sommeil des limicoles paraît bien illusoire. Ils n'ont pas le luxe de la déconnexion complète. Même s'ils sont relativement rares, ici, quelques rapaces spécialisés viennent parfois se servir dans les rangs. Le nombre est bien évidemment un atout. Chacun ne dort que d'un œil. Il y en aura toujours un pour donner l'alerte.
Extrait d'un documentaire « Les oiseaux, la vase et moi » de Yannick Chérel en 2015, dont vous avez été, Fernand de Roussen, le preneur de son, c'est ça ?
Exactement, oui. Yannick m'a fait confiance sur ce film et j'ai tourné pendant 15 jours dans les Côtes d'Armor, dans la baie de Saint-Brieuc. J'ai collecté effectivement beaucoup de sons, la mer,
Et comment ça se passe quand vous travaillez comme ça pour un documentaire ? Est-ce que ça change un petit peu de ce que vous faites habituellement en solitaire, ou c'est le même boulot exactement ?
Non, c'est le même travail, parce qu'en fait, les gens de l'image s'occupent de l'image totalement. Et vous pouvez vous dire qu'à 90%, tous les films animaliers sont doublés ensuite d'un point de vue sonore. Et là, on fait appel à nos compétences pour la véracité, en fait, pour la vérité des sons employés et éliminer en fait les fronts sonores humains, du coup.
Vous faisiez tout à l'heure la distinction entre l'audio naturaliste que vous êtes, donc l'artiste naturaliste, et les bioacousticiens, qui sont des scientifiques, comme Jérôme Seur, qu'on a reçu de très nombreuses fois à ce micro, mais qui vous cite aussi en permanence. Donc, votre travail, il est aussi scientifique d'une certaine manière.
J'ai déposé, en fait, et je dépose encore, l'ensemble des sons à la Sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
C'est important. C'est quoi, c'est une grande bibliothèque de sons, en fait,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, tout à fait, oui.
De tous les sons de la Terre ?
Oui, 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 c'est-à-dire que tous les chercheurs, tous les audionaturalistes qui le souhaitent peuvent déposer à cet endroit leur collecte et puis tous les sons et les ambiances.
Combien il y a de sons dans cet endroit? C'est incroyable.
Oh là, il y a 100 ou 200 000, mais c'est rien à côté de site Xenocanto qui en a près de 10 millions maintenant, près de 10 millions de sons.
Dans lequel vous avez aussi déposé des choses?
J'ai déposé aussi des sons, il y a assez longtemps quand même, parce que comme je dépose des choses de qualité, c'est toujours les choses qui les sons qui viennent en premier, et là c'est très très utilisé en fait par tout le monde.
Alors ça, c'est utilisé pour quoi en fait? Ces banques de données là, elles servent à quoi, à qui?
Là ça sert à la détermination des espèces dont l'IA se nourrit énormément, puisque maintenant on a des sites comme BirdNet ou Merlin qui permettent de déterminer directement de son smartphone le chant des oiseaux. C'est assez incroyable. Donc ça sert à ça, et puis il y a le droit scientifique, donc pour la Sonothèque du Muséum, où là, les chercheurs qui font des études spécifiques sur un accent, sur une espèce, sur un lieu, vont trouver en fait matière à travail. Quoi.
Et l'intelligence artificielle, ça a bouleversé aussi votre façon de travailler ou pas?
C'est tout nouveau, c'est-à-dire que moi qui suis de la vieille école, qui ai commencé avec le magnéto à bande, avec les petites bandes de 12 minutes...
Qu'il fallait changer donc très souvent.
Sans arrêt, ouais. les piles qu'il fallait emmener, enfin, en Afrique, j'avais autant de poids de piles que de magnétophones, ça a tout chamboulé, c'est-à-dire que tous les enregistrements que j'avais réalisés dans les années 80-90, non déterminés, grâce à l'IA actuellement, en repassant les chants, pouf, il me met des noms. Ouais. Et c'est à 90-95% exact.
C'est-à-dire que tout ce que vous avez enregistré, vous ne connaissiez pas forcément toutes les espèces que votre micro captait.
Tout à fait, oui.
Vous aviez des trous dans vos listes, et ça, l'IA a pu les remplir.
Exactement. Ouais. Oui. Contrairement à la bioacoustique, qui va travailler sur un sujet très précis, donc connaître exactement le comportement et le nom des espèces, nous, on est un peu des généralistes. On arrive sur le terrain, on enregistre tout ce qu'on peut, ce qui se présente, qui est beau, qui va faire composer de la mélodie, qui va composer nos créations. Quoi.
On va écouter un autre extrait que vous avez enregistré, Fernando Roussen. C'était en Mauritanie, dans un oasis.
Exactement, de Todd.
Qu'est-ce qu'on entend là?
Des gangas couronnés et tachetés.
Ça discute, hein?
Oui, oui. Oui, oui, mais il y a une raison, parce que en fait, ils viennent tous les matins à un point d'eau s'abreuver, et après le reste de la journée, on les voit plus. Et souvent, il y a des prédateurs autour qui attendent pour venir en croquer un ou deux. Donc, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de relations, en fait, inter-individus.
Quel type de prédateur, en l'occurrence?
Ça peut être un chacal, ça peut être une mangouste, ça peut être... d'autres animaux comme ça, un serpent, pourquoi pas. Ouais.
Donc ça, c'est 1999.
Voilà, oui.
Et c'est un son que l'on peut à nouveau entendre dans vos carnets de voyage.
Voilà. Qui, en ce temps-là, était réalisé sur des DAT, Digital Audio T.
On a connu ça, bon monsieur, également, ici, à Radio France. Vous rentrez donc d'un mois de voyage au Pérou. Qu'est-ce qui vous a marqué, là, à l'occasion de ce séjour en Amérique latine?
L'altiplano, c'est-à-dire un plateau qui est à 4000, entre 3006 et 4000 mètres d'altitude, où là... le sauvage est maître. C'est partout. L'humain est très peu présent. Il y a beaucoup de lagunes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de sons que j'avais jamais entendus. Après, en descendant au lac Titicaca, par exemple, on a découvert, avec mon collègue, là, Olivier Pichard, on a découvert un oiseau, c'est dommage, j'ai pas pu vous l'amener là, qui faisait les tic 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 tic. Enfin, assez incroyable, et on aurait cru plus un insecte ou un batracien qu'un oiseau. Donc c'était le Junquero troglodyte. Voilà, le Junquero troglodyte, incroyable.
Vous l'aviez jamais entendu, ce chant d'oiseau?
Ah non, jamais, et puis on pensait même pas qu'il existait, en fait. On l'a découvert par hasard, et s'il y a un deuxième ouvrage, il rentrera dedans, ça c'est presque sûr.
Et là, au Pérou, par exemple, vous cherchiez des espèces particulières ou pas?
Il y a beaucoup d'endémisme, et puis surtout, il y a une diversité de milieux entre 0 mètre d'altitude et 4600 mètres d'altitude. Donc, il y a de la forêt des nuages, vous avez l'Amazonie d'un côté, vous avez le Pacifique de l'autre. Et là, à chaque fois, on change toutes les espèces et tous les sons et toutes les ambiances. Alors, c'est ça qui est important, qui est intéressant, quoi. C'est de collecter, en fait, toute la diversité de ce monde sauvage pour témoigner, en fait, de ce que c'est encore, ce qui est encore présent, en souhaitant que ça continue, quoi, enfin, qu'on puisse... Mais ça devient difficile, hein. On a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à trouver des endroits calmes, silencieux de toute présence humaine. Ça devient très, très, très difficile.
Et comment vous ressortez d'une séance d'enregistrement, précisément ? Parce que vous pouvez passer des heures dans la nature, donc avec votre casque sur les oreilles, à écouter ce qui vous entoure. Il y a quelque chose qui est presque un petit peu hypnotique, non ?
Plus que ça, c'est presque une religion. Hein. Je suis en religion quand je suis en contact à la nature, mais tout naturaliste est comme ça. On ressent des choses, on perçoit, on devient la bête, enfin, quelque part. On devient le paysage, on devient l'espace. Et on se fond et on entend des choses et on comprend des choses. C'est presque miraculeux. C'est... Oui, je suis en contemplation. Et d'ailleurs, maintenant...
Mais c'est plus qu'en contemplation, parce que vous dites on a l'impression de faire partie d'eux. Donc la contemplation, c'est presque un peu extérieur.
Mais nous faisons... Chacune de nos cellules a été autre chose auparavant et sera autre chose ensuite. Sera un animal, sera une plante. Enfin, voilà, on va se disperser. Ça, j'en suis convaincu. Et vivre ça, mais... on n'a pas de dépression quand on écoute la nature, ça c'est une évidence.
En quoi vous aimeriez vous réincarner, Fernando Roussen ?
En oiseau,
si on vous donnait la possibilité.
En oiseau chanteur.
Lequel ?
Oh là là, 12 000 espèces, peut-être en rossignol, mais le premier, pas le rossignol Philomène.
Ouais. Ça ce serait le comble pour vous du bonheur, alors,
bah oui,
si vous avez une garantie sur l'avenir. Et...
Joli chant de rossignol premier, oui.
Ouais. Donc il y a une espèce d'immersion comme ça qui vous fait presque perdre vos repères quand vous êtes en enregistrement.
Oui, oui, oui. Des fois, on est loin de tout. On se disperse. Et j'ai, depuis 5-6 ans maintenant, j'ai un siège. C'est-à-dire que j'emmène même un siège sur le terrain. Je pose mes micros.
Vous vous embourgeoisez, Fernando Roussen.
Oui, mais il faut porter. Hein, faut porter quand même. Et là, vous rentrez complètement. Là, non, c'est extraordinaire. Donc, j'habite une petite vallée du Haut-d'Ivoire, là, dans la Drôme, où j'ai été m'installer. Maintenant, il y a 20 ans. Mais quel plaisir de se retrouver face à l'espace, face aux éléments, face aux plantes, et de contempler toute cette vie. C'est en permanence, sa vie, c'est extraordinaire.
Et ça, vous vous dites ça encore 40 ans après ?
Ah oui, quoi, toujours, oui, chaque jour.
Vous éprouvez la même émotion ?
Toujours, oui.
On va écouter pour se quitter La Griffe des Bois, si vous êtes d'accord. Extrait toujours de votre collection sonore. On va l'entendre. On va s'incruster dans un silence. Qu'est-ce qui vous évoque ce son ?
Alors, c'est un très très beau souvenir parce que je n'y croyais plus. Vous voyez, c'est un des sons là, que j'avais noté... en allant au Québec, mais je n'y croyais plus, c'était le dernier jour, enfin le dernier soir, je pensais que ce son-là, je ne l'entendrai pas cette fois-ci, quoi. Peut-être une autre fois, et puis soudainement, en avançant, d'ailleurs c'est un raton laveur qui m'a dirigé vers l'oiseau,
merci à lui.
Et puis, d'un seul coup, paf, miracle, cette ouïe qu'on a développée en tant qu'audio naturaliste, très fine et très lointaine, m'a permis de découvrir cet oiseau.
Voilà, La Griffe des Bois pour se quitter et vous remercier aussi beaucoup, Fernando Roussen. Merci beaucoup, c'était très agréable de passer cette heure avec vous pour démarrer le week-end. Je renvoie sur votre ouvrage Symphonie sauvage, carnet de voyage d'un audio naturaliste, où on peut écouter, il y a 2 heures d'écoute avec des QR codes dans ce livre.
59 enregistrements, oui.
Pour s'immerger dans la nature, c'est chez Rustica Édition. Merci beaucoup à vous.
Je vous remercie, Mathieu.
D'être venu à notre micro.